Bonjour, Philippe Aurin, nous sommes très heureux de vous accueillir à la station Ozone, à Libreimola. Vous êtes directeur éditorial des guides Michelin Voyage et Culture. Donc nous allons converser autour de Michelin et des guides verts. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment et quand est née l'entreprise Michelin qui fête ses 100 ans cette année?
Alors, les guides de voyage fêtent leurs 100 ans. L'entreprise Michelin, elle, a été créée en 1889, Michelin et compagnie, et la présence du caoutchouc à Clermont-Ferrand a été attestée dès 1829, puisqu'il y avait une petite fabrique et les premiers objets en caoutchouc, c'était des balles pour jouer.
D'accord. Quelles sont les principales innovations que Michelin a créées dans son histoire ?
Alors, il y a eu déjà le premier pneu réparable en 1891, un pneu de vélo. Après, il y a eu la circulation des véhicules sur air avec la fameuse course Paris-Bordeaux-Paris en 1899, une voiture surnommée l'Éclair qui n'a pas gagné, mais qui attestait du confort de circuler avec les pneus. Il y a eu la signalisation des routes à partir de 1912. Il y a eu, bien sûr, la création du guide Michelin en 1900. Et puis, des innovations technologiques, une innovation majeure qui est celle du pneu radial, dont le brevet a été déposé en 1946. Il y en a eu beaucoup d'autres et il y en aura encore beaucoup d'autres.
Quand on pense à Michelin, évidemment, on pense au personnage Bibendum. Quand est-il né et d'où vient son nom?
Alors, Bibendum est né en 1898. Il a été dessiné par un monsieur qui s'appelait Marius Rossillon, artiste, illustrateur, dont le nom d'artiste était Ogallo et qui était originaire de Dordogne. Et il a eu l'idée de faire cette superposition de pneumatiques pour créer ce personnage sympathique qui a évolué au fil du temps et puis a toujours été mis dans des situations où il avait une proximité avec le consommateur, avec le client.
Dans quelles circonstances et quand est né le premier guide rouge Michelin?
Le premier guide est né en 1900, à une époque où il y avait seulement 2 à 3000 véhicules. Et comme les frères André et Édouard Michelin étaient très visionnaires, il y avait l'ingénieur et puis il y avait le publicitaire. Et la publicité, c'était le guide, bien sûr, pour indiquer au chauffeur, quand on avait une voiture, on avait un chauffeur, au chauffeur où il fallait qu'il s'arrête pour dormir, pour manger et réparer les pneumatiques. C'est comme ça qu'est né le premier guide qui était rouge.
Donc là, évidemment, on va parler maintenant du guide vert, parce que c'est un peu le centre de cette conversation. C'est quand il est né, ce guide vert? Donc, il y a 100 ans.
Il est né en 1926. Il avait été précédé de guides qui étaient dédiés aux champs de bataille. Michelin avait créé des guides pour permettre aux personnes qui avaient perdu un proche d'aller se recueillir sur les champs de bataille. Et puis, il y a eu surtout le bureau d'itinéraire qui a calculé des millions d'itinéraires, l'ancêtre des calculateurs que l'on trouve maintenant, bien sûr, et sur lesquels on a énormément de réflexes d'aller pour trouver son chemin. Donc, vous alliez à Paris où vous adressiez un courrier. À l'époque, c'était boulevard Pereire, et vous disiez « je veux aller de Paris à Bordeaux en m'arrêtant à Tours, à Angoulême, que dois-je visiter, où dois-je aller ?» Il y a eu des centaines de milliers d'itinéraires qui ont été calculés, et ils ont servi de base aux premiers guides de voyage, qui étaient des guides qui étaient encore à destination des automobilistes, mais qui ont ensuite évolué de plus en plus pour devenir des guides à vocation plus touristique. Et le premier guide en 1926 était dédié à la Bretagne.
Donc, puisqu'on parle de guides de voyage, faire un petit point sur le marché des guides de voyage. Quels sont les différents acteurs du marché des guides de voyage?
Alors, vous avez un marché. Ce qui est important de dire, c'est que le marché français et le marché de langue française est le deuxième marché au monde pour les guides de voyage papier. Le premier marché, c'est l'Allemagne. Le marché français, c'est un petit peu moins de 5 millions de guides achetés en librairie. Et vous avez après un certain nombre d'ouvrages qui sont réalisés et donnés, que ce soit par des entreprises ou des offices de tourisme. Donc ça se monte au total à plus de 5 millions. Et vous avez plusieurs acteurs historiques. Le plus ancien serait le guide bleu, qui est l'ancêtre des guides Joanne chez Hachette. Ensuite, vous avez le guide vert, le guide Michelin. Et puis, vous avez aussi des acteurs qui sont arrivés après, comme le guide du Routard, Lonely Planet, et puis bien d'autres, en fait.
Alors, est-ce qu'il existe... Quels différents types de voyages, de guides de voyage existent-ils? Il y a des guides pratiques, des guides culturels. Est-ce qu'il y a une typologie de guides de voyage?
Il y a plusieurs typologies. Il y a bien sûr les guides de voyage classiques qui sont sur des formats relativement importants, comme le guide vert, et qui peuvent couvrir des pays, des régions de France ou d'Italie. Vous avez ensuite des guides de voyage avec des formats plus petits qui répondent à une demande qui est de voyager plus léger et de manière plus concise sur des lieux comme par exemple des villes. Et puis vous avez des guides thématiques, des guides qui vont décrire des itinéraires à vélo, des itinéraires de randonnée, des voyages en train. Donc vous avez deux grandes familles, une famille thématique et une famille de guides de voyage. Et au sein des guides de voyage, vous avez le grand format, le petit format, et vous avez des collections qui vont être peut-être plus pratiques que d'autres. Et en ce qui concerne le guide Michelin Voyage et Culture, puisque c'est le nom qu'il porte désormais, le guide vert, il est vraiment dédié au voyage, certes, mais également c'est le guide de toutes les cultures.
Justement, comment évolue le marché de guides de voyage? Est-ce qu'on en vend moins? Est-ce qu'il est concurrencé par tous les ressources numériques, ou c'est un marché qui est toujours vivace?
Alors, le guide de voyage a connu une croissance soutenue jusque dans les années jusqu'à 2010, donc jusqu'à 2015-2016. Et puis après, avec bien sûr une émergence croissante du digital et des manières de voyager, il a stagné pour connaître un énorme trou d'air en 2020 avec le Covid. Et depuis, eh bien, on constate des tendances qui sont assez inégales, une bonne résistance du petit format. Sur le grand format, ça va dépendre des destinations. Vous avez des destinations qui peuvent être en très forte croissance, comme le Japon depuis 2 ans, et puis des destinations où peut-être les acheteurs, les clients se disent qu'ils ont peut-être moins besoin de guides, comme les régions françaises qui avaient été extrêmement forte pendant la période du Covid, ou un souci de conjoncture, comme par exemple aux États-Unis, où là vous voyez un effondrement des ventes des guides sur les États-Unis. Donc c'est un marché qui, pour répondre à votre question, qui se maintient bien. C'est un gros marché qui a une place importante dans les librairies, mais qui n'est plus en croissance comme il l'a été jusqu'en 2015.
Alors, quelles sont les différentes collections du guide vert?
Alors, vous avez le guide vert grand format, donc une centaine de titres qui couvrent à la fois la France, l'Europe et le monde, avec une proportion importante des régions françaises. Et puis, vous avez aussi le guide dédié au week-end, donc c'est la collection Weekend Go. Ils sont verts tous les deux, le grand et le petit. Là, également, une centaine de titres, majoritairement des villes pour des week-ends en France ou en Europe, et quelques destinations très particulières, comme par exemple l'Égypte, qui est une destination qui fonctionne très bien en ce moment. Et ce guide petit format s'adapte très bien pour les personnes qui partent en voyage, particulièrement un voyage organisé, puisque souvent, quand on va en Égypte, on ne voyage pas seul. Donc ça, c'est pour les guides verts, les guides Michelin, Voyage et Culture de couleur verte. Et puis après, vous avez les guides thématiques, avec bien sûr des thématiques autour de la mobilité, autour de tout ce qui roule, le van, le camping-car, la moto, le vélo. Et puis aussi, vous avez des guides thématiques avec une dominante plus responsable, des voyages en train, des voyages pour les personnes à mobilité réduite, des voyages en pleine nature. Donc ça, c'est toute la partie pratique. Et puis, vous avez aussi des beaux livres, puisque nous avons, notamment à l'occasion de notre centenaire, fait un beau livre sur la France. Nous avons voulu dédier à la France un ouvrage qui est la synthèse de nos 34 guides régionaux France.
Et quelles sont les particularités du guide vert par rapport à ses concurrents ?
Le guide vert a toujours, et ça c'est l'état d'esprit Michelin, voulu rendre service à ses lecteurs. Et quand je dis rendre service, c'est les aider à prioriser ce qu'ils vont visiter. Donc très vite sont apparues des étoiles pour permettre aux voyageurs de mieux se repérer. Donc 3 étoiles, ça veut dire vaut le voyage. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est par exemple la ville de Bordeaux ou la ville de Saint-Émilion. 2 étoiles, ça veut dire vaut le détour. Vous êtes sur l'autoroute, vous quittez l'autoroute pour aller visiter par exemple en Gironde le château de Cazeneuve ou le château de Roquetaillade. Et 1 étoile, ça vaut la visite, vous êtes sur place et donc vous allez aller par exemple visiter le château de Cadillac ou la cathédrale de Bazas. Ça, c'est la clé de voûte de la ligne éditoriale des guides verts. Ces étoiles, elles ne sont pas attribuées au hasard. Hein, il y a 9 critères qui permettent de les attribuer, critères qui vont de la première impression du visiteur, qui est l'auteur, à l'évaluation de la qualité de l'accueil et la qualité de la visite, qui sont les 2 critères les plus importants pour le voyageur.
Alors, comment se fabrique un guide vert ?
Alors, un guide vert se réalise bien sûr avec des auteurs qui vont sur le terrain. Il y a une équipe d'éditeurs qui est l'équipe permanente basée à Paris. Et donc il y a 10 d'éditeurs et au total 100 de personnes qui tous les ans vont sillonner le monde au gré des créations ou des mises à jour de guides qui vont être réalisées. Donc il y a une partie terrain, une partie rédaction, et puis ensuite toute une partie de montage de l'ouvrage avec des cartographes, avec des iconographes, puisque les guides verts sont abondamment illustrés. La cartographie, bien sûr, qui est un élément très important, et puis aussi des secrétaires d'édition et des relecteurs jusqu'à l'impression finale de l'ouvrage.
Alors, sur quels critères les destinations de guides sont-elles choisies ?
Alors, actuellement, on couvre, la plupart des éditeurs couvrent l'intégralité des destinations où les visiteurs se rendent. Donc, on regarde bien sûr les tendances. Il y a une personne au marketing qui regarde les tendances de voyage, ce qui monte, ce qui baisse. Et puis parfois aussi, on va décider de faire des paris en fonction de destinations qui nous semblent intéressantes, émergentes. C'est comme ça qu'il y a 2 ans, nous avions sorti un petit guide sur Bahreïn comme une alternative à Dubaï qui commence à être très connu. Bahreïn, qui est une destination qui correspondait bien à l'esprit des guides Michelin Voyage et Culture, puisque c'est une destination qui est très culturelle.
Et à quel intervalle sont renouvelées les informations des guides ?
Les guides sont mis à jour tous les 2 ans, sauf certains petits guides. Il y a 10 de titres dans la collection Week & Go qui sont mis à jour tous les ans. Les grandes villes mondiales, Paris, New York, Londres, Rome, Lisbonne notamment, où l'actualité bouge énormément et qui nécessite une édition annuelle.
Et combien de temps passe un rédacteur de guide en moyenne à recueillir des informations et à concevoir le guide ? Enfin, c'est un travail d'équipe, mais sur le terrain, il passe combien de temps ?
Alors, ça dépend. Si vous faites une mise à jour, ça peut être une mise à jour entre une semaine et 15 jours sur une zone bien précise. Et si c'est une création, comme on en fait de temps en temps, ça va aller de 3 à 6 mois sur le terrain. Et au total, pour faire le guide, il faudra entre un an et un an et demi.
Et quelles sont les différents, enfin les nouvelles destinations qui sont en projet, enfin, je sais pas si vous voulez nous dire sur les guides verts, parce que voilà, il y a des nouvelles tendances et quel projet vous avez pour les guides verts?
Alors, les tendances, c'est très important quand on ne peut pas aller créer indéfiniment de nouvelles destinations, puisqu'on couvre déjà à peu près 90% des destinations importantes. Donc, on regarde les tendances. Nous avons lancé à la fin de l'année une collection qui s'appelle Off. Cette collection, c'est pour voir moins et voir mieux. C'est une réponse, une alternative à la question du surtourisme. On va vous emmener à Rome ou à Londres, mais voir des lieux différents, peut-être moins courus, ou alors voir des lieux très importants, mais avec un regard, un pas de côté. Nous lançons également au mois de mars une collection qui va s'appeler le Grand Tour, qui est une collection autour des voyages initiatiques de l'époque du 19e siècle, où les jeunes, qui étaient plutôt des artistes ou des jeunes aristocrates, partaient dans le sud de l'Europe. Donc là, on réinvente ce grand tour 20e siècle avec 4 volumes sur l'Italie pour la première sortie. Et chaque volume sera précédé de la nouvelle d'un auteur qui a un lien très fort avec la destination. Donc pour le nord-ouest de l'Italie, c'est Pierre Adrian qui a écrit une nouvelle. Pour le nord-est, c'est François-Henri Désérable. Pour la partie centrale, Laurent Binet. Et pour la partie sud de l'Italie, Andrea Marcolongo. On essaye vraiment d'être innovant sur des concepts qui répondent aux attentes des voyageurs. Et on essaye aussi, bien sûr, et on n'essaye pas, on le fait, de faire toujours évoluer les rubriques des guides verts pour apporter de la nouveauté et susciter du renouvellement.
Est-ce que c'est des projets aussi en beaux livres, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de beaux livres, en fait, qui sont des invitations au voyage, qui ne sont pas forcément des guides, mais voilà. Est-ce que vous avez des projets sur les beaux livres?
Oui, on a toujours cette idée de faire plus de beaux livres. Le livre sur la France, France curieuse et amoureuse, a été un joli succès. Donc nous réfléchissons à l'étendre sur d'autres destinations. Nous avons travaillé également l'année dernière avec un créateur de contenu qui s'appelle Loïc Lagarde, qui fait de très belles photos. Et nous avions fait un ouvrage sur la France vintage, itinéraire en France avec des véhicules anciens. Donc on réfléchit aussi à des collaborations de ce type. Nous avions également fait un ouvrage qui était entre pratique et beaux livres avec Secret d'Histoire. Donc on réfléchit aussi sur cette voie plus historique, et pour la fin 2026, je pense que nous allons pouvoir proposer une dizaine de nouveaux ouvrages.
Et enfin, est-ce que vous avez des anecdotes particulières à nous raconter sur l'histoire des guides verts?
À quel type d'anecdotes?
Des choses un peu surprenantes, ou des ce qui arrivait à des collaborateurs qui en créant, en allant sur des lieux, ou voilà, si effectivement c'était de la petite histoire de personnes qui travaillent avec le guide vert, voilà, des choses, des difficultés, oui. Des difficultés à simplement à concevoir des guides, ou des quelles sont les différences, peut-être les complications qu'il peut y avoir à créer un guide, ou à obtenir des informations, visiter des lieux. Est-ce qu'il y a des obstacles, ou voilà, les choses un peu, voilà,
alors c'est de plus en plus facile de découvrir des lieux, toute cette part d'aventures et d'imprévus que l'on pouvait avoir jusque dans les années 90 a disparu avec le développement d'Internet, donc la préparation des voyages est simplifiée. On peut avoir au cours de ces tournées parfois des surprises. Il nous arrive parfois, lorsque l'on visite des lieux, c'est arrivé notamment à un de nos auteurs d'être dans le musée d'art hispanique à Dallas et de voir tout d'un coup la porte d'une salle s'ouvrir et de voir George Bush avancer vers lui parce qu'il était devant un tableau de Goya et que George Bush père, fils, pardon, peint. Et donc, comme ça, il a dit bonjour et il s'est présenté. C'était complètement inattendu. Moi, pour ma part, dans une visite au cours d'une conférence de presse au Getty Center à Los Angeles, j'étais assez émerveillé par le musée qui est très, très beau. Et à l'issue de la conférence de presse, j'ai pas fait attention. Tout le monde est parti et en fait, je suis resté et les gardiens étaient là et visiblement, ils n'avaient pas pour instruction de faire partir les journalistes, entre guillemets, et je me suis retrouvé seul, enfermé pendant 1h30 dans le Getty et j'ai eu un des plus beaux musées du monde pour moi tout seul. Donc voilà, ce sont des petits événements, des rencontres ou des privilèges. Après, qu'on n'attendait pas, parce que souvent, lorsque l'on visite des lieux, on ne se présente pas. On y va pour vivre l'expérience des lieux de la manière la plus anonyme possible. Et on va se présenter quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est sûr de vouloir voir un lieu et où il faut absolument dire à la personne pourquoi on est là pour pouvoir bien le décrire. Donc, en général, on peut vivre souvent des expériences comme les visiteurs vont la vivre.
Justement, les visiteurs, est-ce que vous avez des retours des gens qui utilisent le guide vert, en fait, des choses qu'ils vous disent ou qu'ils ont envie voilà, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que des gens qui vous écrivent, en fait, ceux qui utilisent le guide vert?
Oui, la communauté des utilisateurs du guide vert est très importante. Alors, les courriers, on en reçoit encore moins, mais quand même une bonne entre 30 et 50 par semaine, qui sont doublés aussi par des mails et puis de plus en plus par des messages via les réseaux sociaux, que sont Instagram principalement. Et souvent, en fait, ils vont remonter quelque chose qui ne leur a pas plu. C'est toujours très facile de critiquer, mais on prend toujours en compte les remarques pour les inclure dans ce que l'on appelle les fiches de construction des guides et qui nous permet de préparer les mises à jour suivantes. Et puis, quand parfois on a des propositions aussi de choses à faire, on les inclut aussi dans ces fiches de construction pour aller vérifier et voir si l'inscription dans le guide vaut la peine d'être faite ou pas.
Juste une dernière question, parce que vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, justement, vous avez un compte Michelin qui est très actif, donc c'est important aussi de faire vivre ensuite la communauté des gens qui lisent le guide vert aussi par les réseaux sociaux, c'est important.
Oui, c'est extrêmement important. L'objectif de tout éditeur, qui plus est d'une collection centenaire, c'est de s'ancrer dans le futur et dans les habitudes de voyage des plus jeunes et de les inciter à découvrir plus que les réseaux sociaux par le biais des guides. Donc il est extrêmement important de faire de la pédagogie pour rester ce compagnon de voyage pour lequel le guide vert a été conçu. Le guide vert, c'est un compagnon de voyage. Vous avez un livre qui, par rapport à la somme d'informations qu'il contient, est relativement bon marché et qui ne peut pas vous laisser sur le bord de la route. Donc, vous avez, c'est à la fois une source d'inspiration pour la préparation du voyage, une source de d'inspiration sur place qui vous permet, si vous êtes un peu perdu ou si vous avez oublié ce que vous vouliez faire, d'aller chercher. Et puis après le voyage, qui vous permet de faire le bilan de ce que vous avez vu et vous donner envie aussi de voir ce que vous n'auriez pas vu. Le tout, bien sûr, avec ces étoiles qui vous aident à prioriser les sites que vous allez voir, les adresses qui sont proposées entre 500 et 1000 selon les destinations, plus les cartes.
Merci.
Merci.
Merci à vous.